Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, épisode qui est un petit peu spécial, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas avec Croissant, je ne suis pas avec Nightcrash, mais je suis avec Arthur, Arthur qui a gagné un Pro Tour récemment, Arthur qui est trop fort en fait, voilà c'est tout.
Et bonjour à tous, bonjour à tous.
Oui, ça va être une interview d'Arthur du coup, qui va nous raconter le Pro Tour, comment est-ce qu'il l'a vécu, etc. etc. Donc j'ai prévu plein de questions, j'ai prévu plein de réponses, mais d'abord, Arthur présente-toi. À ceux qui nous écoutent.
Ouais, bah du coup, Arthur, nouveau joueur de Flesh and Blood depuis un an à peu près, mais je jouais déjà pas mal à beaucoup d'autres TCG plus jeunes. Donc, débutant sur Flesh and Blood, mais j'avais quand même pas mal d'expérience sur d'autres TCG. Donc, voilà.
Moi, je savais avant, enfin, j'ai appris quand tu t'es mis à Flesh and Blood que t'étais que t'étais déjà un compétiteur, enfin que t'avais déjà grind des tournois, que tu t'étais déjà beaucoup investi dans le fait de jouer compétitivement. Et c'est un truc dont on avait déjà parlé la première fois que t'étais passé dans l'émission. Et c'est vrai que quand je t'ai vu pendant ta run sur le Pro Tour, je me suis dit en vrai, ouais, ça se sent que t'as déjà fait des tournois. Ça se sent que t'as déjà ce truc où t'arrives en top 8. Il y a tout un mindset à avoir, la préparation, comment aborder le tournoi, etc. etc. Et du coup, bah, en parlant de tournoi, t'es venu avec Dromai, ton deck de cœur, parce que c'est celui avec lequel tu as déjà fait de très bons résultats, dès qu'on l'a déjà présenté sur la chaîne. Si je fais de la pub pour nous-mêmes en passant.
Ouais.
mais là, tu arrives sur une nouvelle méta, avec des héros qu'on ne connaît pas encore. Mais toi, tu connais très bien ton héros. Et du coup, ouais. Comment est-ce que tu t'es préparé à ce tournoi? Comment est-ce que tu as ajusté ce que tu savais et ça, ça?
Eh ben, du coup, les nouveaux héros qui sont là par rapport au tournoi précédent que j'avais pu jouer avec Dromai, c'était principalement Kayo, qui change beaucoup la méta parce que c'est au final... c'était le deck le plus représenté dans le tournoi et c'était probablement le deck attendu comme le plus représenté et peut-être le plus fort à avoir, ça je sais pas, mais en tout cas au moins le plus populaire. Du coup, ça change beaucoup. Il y a aussi Victor qui était pas mal joué et qui était nouveau. Et il y avait un deck qui n'est pas vraiment nouveau, c'est Katsu, mais qui avait une nouvelle carte, donc Harmony, qui rendait le deck beaucoup plus consistant et qui. Du coup, il y a une nouvelle version qui a émergé, donc c'était un deck aussi un peu nouveau, même si le héros en soi existe depuis longtemps. Du coup, pour Kayo, c'est comme je savais que ça allait être le deck le plus représenté, clairement j'ai dû m'entraîner beaucoup contre et trouver une liste qui, à mon avis, était fine dans le match-up, parce que sinon ça ne servait à rien de jouer le tournoi. Quoi. Si tu penses que tu es défavorable contre le meilleur deck du format qui va être joué par la plupart des gens, ça me semblait pas être un bon plan en tout cas. Donc je me suis beaucoup entraîné contre Kayo et j'ai trouvé du coup pour moi la bonne tech de mon deck du coup c'était de jouer les Mage Master Boots pour pouvoir faire des passing Mirage Go Again qui sont en plus de créer une hache donc c'est vraiment cool et du coup de jouer un plan très très slow où je cut les blocs 2 pour rentrer le bloc 3 et avoir le temps du coup de rentabiliser mes passing Mirage et mes dragons etc. Donc c'était mon plan et c'est la chose que j'avais train pas mal sur Tailshare du coup avec les copains. Après, Victor, pour le coup, c'est un Bravo qui est moins fort dans le match-up contre Dromai. Donc, comme je connaissais déjà bien Bravo, je m'étais déjà beaucoup entraîné parce que c'est un truc très technique, mais que du coup, tous les joueurs de Dromai qui vont en tournoi doivent apprendre à un moment. Là, j'étais très confiant du coup contre Victor. Et par contre, Katsu, j'ai abandonné le match-up. Enfin, clairement.
C'est un ninja.
Pour moi, ouais, ninja. Ninja, ça a toujours été extrêmement dur pour Dromai. Et moi, j'ai eu l'impression que ça me coûtait beaucoup trop cher en termes de deck building pour avoir un peu de chance contre le deck, quoi. Donc, j'ai décidé d'abandonner le match-up, de me dire que si je le rencontrais, c'était un bail. Et voilà.
Ok, ok. Bah, nous, moi, je sais que quand tu parles de ta tech où tu as choisi de jouer les Mage Master Boots et Passing Mirage contre Kayo, et c'est marrant ouais. Parce que quand je vois ça sur la game que j'ai eu la chance de cast où tu affrontes Kayo, justement, je suis en mode c'est à la fois du génie et en même temps c'est étonnant. Et en fait, j'étais en mode c'est super cool parce que ça veut dire qu'il a un plan de jeu, ça veut dire qu'il a pas juste mis les Snapdragons et qu'il est en mode c'est un deck aggro comme un autre et il faut taper dedans et ça va bien se passer. Et du coup, j'ai trouvé ça super cool que tu trouves ce petit edge. Et ce qui est intéressant en plus avec ce petit edge sur les Mage Master Boots, c'est que Mage Master Boots, c'est pas une carte morte dans le deck. Genre loin de là, puisque dans les match-ups un petit peu lents, il y a d'autres match-ups en fait où Mage Master
Oui,
Boots devient pertinent,
clairement,
des trucs, avec quoi.
Gardien aussi, par exemple, quoi. Ouais.
Bien
Ça
sûr.
me... ouais.
Bah, je trouve ça très stylé. Tu as dit que tu avais complètement abandonné Katsu. Est-ce qu'il y avait quand même d'autres decks que tu avais envisagé dans cette méta, à part Victor, Katsu et Kaio, du coup? Ou est-ce que tu te disais, bon, finalement, Dromai, ce qui est bien, c'est qu'elle lave à peu près tout le monde à partir du moment où on sait jouer le deck. Donc,
Ouais, je me
c'est
suis dit.
d'autres trucs que tu avais considérés?
Je me suis dit, bah. Dromai, ça lave tout sauf brut, sauf si tu du coup réussis à trouver une liste qui est fine dans le match-up. Sauf brut et ninja, où là pour le coup pour moi c'est à peu près impossible de trouver une liste qui s'en sort. Bien sûr, j'ai quand même fait gaffe à avoir des match-ups décents dans le reste, hein. Mais par exemple pour moi Kasai c'était un bail, Azalea c'était un. Bon, c'était pas un bail, mais c'est très favorable. Kano c'est très favorable aussi. Prisme serait favorable, Zuri c'est un bail, enfin bref, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense que ce que vous avez mis là comme représentation, c'est le calling, si je ne me plante pas. Pas le proto.
Ah ouais, OMG, la régie se trompe.
T'inquiète,
Aïe, aïe, aïe.
t'inquiète, t'inquiète. Et puis du coup, le reste, en fait, les autres decks, je les connaissais déjà. C'est des decks contre lesquels j'avais pu déjà train pour les Worlds notamment. Donc, il n'y avait pas grand chose de nouveau en fait par rapport à ces decks-là. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir du training en particulier. Mais j'ai quand même considéré, quoi. J'ai pas non plus affaibli ma liste énormément contre eux. Par exemple, à la base, j'envisageais de jouer Crown of Providence juste pour le match-up Azalea, parce que je pense que c'est super fort contre Azalea. À la fois d'enlever les tomes du deck qui sont nanoblocks et qui peuvent te faire perdre la game bêtement. Et à la fois parce que l'arsenal, le fait de pouvoir enlever son arsenal est très fort, notamment quand elle va te faire un Ace with Inertia avec un. Vous ne pouvez pas bloquer avec votre arsenal ce tour-ci, et que tu as une défense réaction d'arsenal, tu vois. Ça peut être un scénario très où la Crown of Providence a un très grand intérêt. Mais au final, j'ai décidé de la cut pour rentrer les Mage Master Boots, du coup. C'était un jour avant le tournoi. Où j'ai décidé de faire ça en me disant que bah il y aura quand même beaucoup plus de Kaio que d'Azalea. Et du coup voilà.
Ben, c'est vrai qu'on a senti dans toutes les interventions que tu as fait et même de ce qu'on sait comment dire, du dernier mois que tu as passé avant d'être au Pro Tour que tu as été porté justement par toutes les connaissances que tu avais accumulées sur Dromai. Et d'ailleurs, ce qui est très cool, c'est que c'est le héros avec lequel tu as commencé,
Ouais.
puisque tu as commencé à jouer au jeu en découvrant Dromai, et tu es en même temps celui qui l'envoie probablement en Living Legend. Parce que maintenant que tu as gagné le Pro Tour, tu lui mets 300 points dans la tête. Elle est à 996.
Ouais.
Il y a une saison de ProQuest qui arrive. Bon, il y a un monde où elle ne survit pas à la prochaine semaine, quoi. Donc,
Ouais, c'est très très probable.
Et d'ailleurs, du coup, alors, je comptais poser cette question bien plus loin, mais maintenant qu'on aborde le sujet, je trouve ça cool. Comme tu sais que tu as envoyé Dromai en Living Legends, est-ce que tu as déjà une idée d'un héros puis qui peut-être t'intéresse? Ou genre tu te dis, ah, dis, je pourrais essayer celui-là et voir qu'est-ce que ça donne.
Bah du coup comme je l'ai déjà dit Dorian Thea Hatchett, en vrai ça m'a beaucoup impressionné. C'est un deck que je connaissais pas du coup avant le tournoi, donc j'ai pas pu me préparer. Et j'ai l'impression que ça fait des maths un peu débiles.
Oui.
Après faut voir, je pense que c'est un peu polarisé aussi, par exemple ça va perdre. Je pense que ça va perdre très fort contre des decks comme Kano, peut-être Prism aussi. Bon à voir, comme j'ai pas encore beaucoup pu le tester, je sais pas trop. Mais c'est un deck qui a l'air très impressionnant. Sinon, les brutes aussi sont fortes, et du coup, ça m'intéresserait aussi. À part ça, je sais pas. En gros, moi, j'aime bien les decks midrange de base. Donc, plutôt un deck midrange, a priori, je pense.
Du coup, oui,
Peut-être
c'est vrai que si
brut
t'aimes
ou
les
druide.
decks midrange, les brutes, notamment un petit peu Reinar et Dorian Thea, ça ressemble en effet à ce qu'on appelle des decks midrange. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs dans ta liste que tu as changé ou que tu as sélectionné justement pour aborder certains match-up?
Alors, je ne vois plus très bien là, mais on va réfléchir. Mais il y avait
Est-ce que...
du coup, il y avait quand même le package pour gardien, donc qui est Lost in Thought, les défenses réactions pour Bravo, le Dust de Chromaille et une Rime en Bronze. Donc ça fait quand même pas mal de cartes qui sont rentrées pour être sûr d'avoir vraiment le match-up. Les Cadavres Rouges Contrebande sont là pour Dromaï et pour Prism, parce que c'est un popper du coup. Qui m'ont d'ailleurs beaucoup servi parce que j'ai pu faire une game contre Prism et j'ai chopé mes deux Cadavres Rouges qui m'ont permis de popper. Par exemple, ouais, je m'étais pas mal préparé aussi pour le miroir. Le miroir, c'est un match-up que je connais beaucoup, parce que bon, j'ai le temps d'en faire le deck. J'ai eu le temps d'en faire à Paris, il y a beaucoup de joueurs de Dromaï, notamment toi d'ailleurs, Pipio.
Oui.
Du coup, avec cette liste, je me sentais super confiant dans le match-up parce que j'ai à la fois Snapdragon plus deux Snatch qui sont très solides. Je joue les trois Billowing Mirage aussi qui sont très forts dans le match-up, là où par exemple un Sweeping Blow pour moi est moins bien. Les Blazed Long aussi qui permettent de clean, etc. Donc en fait, la version un peu. Je joue les bonnes cartes de la version aggro pour le miroir et je joue aussi deux de Cadaverous qui sont très fortes pour le miroir, plus une Rime en Bronze qui sert aussi. Donc je me sentais vraiment confiant, par exemple, à ce niveau-là.
Tant mieux, tant mieux. Ça se voit que c'est l'expérience qui parle, c'est très stylé. Du coup, maintenant, je voulais te poser quelques questions sur l'événement en soi. Parce que nous autres Français, on a eu la chance de suivre le cast de Heavy Hunters, du coup. Mais on n'était pas sur place. Et moi, ça m'intrigue de savoir à quoi ça ressemble à un Pro Tour à Los Angeles. Genre, est-ce que la venue était stylée? Est-ce qu'il y avait des vendeurs avec plein de cartes partout? Ou est-ce que tu n'as rien regardé de tout ça et tu as focus le Pro Tour?
Non, bah, tu vois, je suis arrivé la veille où du coup, il y a un petit buffet pour manger, etc. Un discours, et notamment l'annonce aussi de la nouvelle extension. Donc ça déjà c'était cool, en vrai la salle était vraiment grande et elle était plutôt stylée. Je crois qu'elle était un peu moins grande que Barcelone, je saurais pas exactement dire, mais
okay.
Il y avait pas mal de vendeurs aussi. J'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas des cartes qui valaient moins cher ici qu'en Europe et tout, mais au final je me suis pas attardé. J'ai regardé ça le premier jour quoi, mais après vraiment c'est sorti de ma tête et.
Ouais, t'avais un pour à jouer quoi.
Ouais, c'est ça, j'étais vraiment focus sur autre chose.
Ok, très bien. Du coup, je te propose qu'on parle maintenant du coup du tournoi, puisque tu étais là pour participer au Pro Tour. Donc, le premier jour commence par 4 rondes de CC suivies d'une draft. Est-ce qu'il y a des games parmi ces 4 rondes de CC que tu gagnes évidemment haut la main parce que tu es trop fort, qui t'ont marqué?
Alors, déjà, le premier jour en CC, j'ai eu une réussite monstrueuse. C'est vraiment les deux. Déjà, j'ai taqué des bons match-up et j'ai réussi à dodge les 4 sous, tu vois. Pour moi, c'était si je fais les 4 sous, c'est un bail. Donc, clairement, faut que je les dodge, quoi. Et du coup, je crois que j'ai tag Victor, Azalea, Kayo et Boltin, qui sont, du coup, pour moi, 4 bons match-up. Kayo, à la limite, le moins favorable. Mais du coup, avec ma tech, je me sentais confiant. Mais j'ai eu énormément de réussite. Par exemple, j'ai eu deux fois où j'ai commencé, j'ai eu Nourishing Emptiness tour 0, donc vraiment la meilleure carte possible.
Pas
Et
mal.
J'ai eu l'impression du coup que pendant ces games, j'ai roulé un peu sur les games parce que juste la variance était de mon côté quoi. Donc ça c'était cool. Mais sinon, non, du coup j'ai pas spécialement. Même par exemple, tu vois, contre Victor, le premier clash qu'il fait, c'est un test of strength. Il révèle une. Je révèle une carte à 5 d'attaque et moi je révèle un Nourishing, je gagne un gold. Et un gold c'est excellent dans Dromaï, c'est vraiment une carte de fou, c'est vraiment incroyable. Donc tu vois, il y a vraiment des choses qui sont dans mon sens. Et du coup non, les games étaient pas trop de difficultés, mais vraiment parce que la variance était de mon côté quoi.
Ok. Bah tant mieux, il en faut de toute façon. Enfin,
on
dit souvent que un tournoi, ça se joue avec à peu près une part égale de préparation, de connaissances, mais aussi de variance, de toute la chance qui se fait,
dodge
les mauvais match-up, piocher les bonnes cartes au bon moment. D'ailleurs, en parlant de piocher des bonnes cartes au bon moment, t'as quand même eu quelques pioches un peu miraculeuses plus loin, mais ça fait partie des trucs, en fait, de toute façon.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, t'arrives sur la draft, t'arrives sur une bonne table de draft, du coup, parce qu'à 4-0, t'es sur la
haute table. Ouais, bien sûr. Par exemple, je reconnais à ma table, je reconnais Francesco Giorgio qui est, j'ai l'impression de ce que j'ai pu suivre, un très très gros joueur de limité, que ce soit scellé ou draft, j'ai l'impression qu'il fait toujours des gros résultats. Et Je suis un peu nerveux en vrai. En plus, c'est la table streamée. Et au départ, je suis un peu shaky. J'essaie de partir sur Warrior et je vois que assez rapidement que on commence à me deny des cartes Warrior. Et là, du coup, je fais quelque chose que je fais extrêmement rarement. Vraiment, j'ai quasiment jamais fait ça de ma vie. Je switch au bout de 3 picks, après avoir pris 3 picks complètement Warrior. Je switch sur Brut et je me retrouve avec un deck pas fou. Je 31 cartes jouables. J'ai 11 noms, 6 plus. En vrai, j'avais un très bon slot d'équipement qui pouvait me sauver, mais j'avais pas un très bon deck. Donc voilà, par exemple, le draft, c'est pas hyper bien passé à ce niveau-là. Mais ouais, voilà. Du coup, pour te dire, le table de draft, c'était un peu difficile. Ouais.
Ok, bon, tu finis à 1-2 après cette draft. D'après ce que tu m'as dit, ça aurait pu finir en 0-3, donc heureusement
ouais,
que ça
carrément.
A fini en 1-2.
Bah, en gros, pour expliquer un peu, donc première game, c'est celle qui a été streamée donc, contre Francesco Giorgio. En vrai, pour le coup, là, je pense que comme je gagne le toss et que j'avais un très bon slot d'équipement pour affronter Brut, j'étais un peu favorable, mais j'ai eu des draws hein, vraiment horribles, je trouve. Du coup, ça n'a pas suffi. Après, je tombe contre un des deux seuls Warriors. Il y avait deux Warriors à la table, donc normalement, tu vois, ils sont un peu favoris. Parce qu'il y avait trois Brutes, trois gardiens de Warriors. Ils sont censés avoir des très bons decks. Et en fait, ils ont draw autour. Ils ont draw à la première game. Du coup, je peux l'affronter en 0-1. Et bah, en vrai, clairement, il m'a ouvert, hein, j'ai rien pu faire. Et dernière game contre gardien. Ça finit, on est tous les deux à un point de vie. Et je crois honnêtement qu'il a oublié que Wage Might pouvait Wage et qu'il pouvait activer Betsy pour me tuer. Donc s'il avait fait ça, je pense que je serais juste mort. Donc voilà, c'est clairement. Le tournoi repose sur rien, tu vois. Parce que si j'avais fait 0-3 en draft, c'était probablement fini à ce moment-là.
Bon, du coup, tu finis ta journée à 5-2. Nous, on voit sur les standings que tu es 41e, tu es le Français le mieux placé. On sait déjà qu'il y a deux Français qui ont abandonné l'aventure parce qu'ils ont eu des résultats moins bons que toi. Et là, du coup, nous, tous les Français sur le stream, on est en mode... On est des singes, là. On est en mode tous derrière Arthur. On monte tous dans la voiture.
Ouais.
Et toi, comment tu te sens à ce moment-là, après cette première journée? Tu sais que tu vas faire jour 2, du coup. Mais comment est-ce que tu l'abordes, du coup, cette deuxième journée?
Bah, 5-2, c'est un score que j'aurais été très content de faire... en temps normal, mais quand tu commences à 4-0 et que tu finis en 5-2, c'est forcément un peu déçu. Moi, je visais plutôt du coup à le 2-1 sur la draft, tu vois, au moins. Bon, du coup, je suis un peu déçu, mais j'essaie quand même de relativiser, de me dire que 5-2, bah, c'est quand même déjà excellent et j'ai encore toutes mes chances, tu vois. J'y crois encore un peu, mais un peu déçu, quoi. Ouais.
Ok. Bon. Du coup, le lendemain, nouvelle draft. Là, c'est la draft. Alors, nous, on en a casté une autre, mais on sait que t'es pas très loin et tout et tout. Sur le stream, quand on suit, on a des infos de chat, comme on dit, qui disent il a un pool exceptionnel, il va tout casser.
Ouais.
Du coup, qu'est-ce que c'est que ce pool? Moi, je veux savoir.
Bah, en gros, déjà, un truc que je trouve marrant, c'est que quand j'arrive à la table, je suis juste à droite de Michael Hamilton, donc ça fait un peu impressionnant pour moi. Je suis très content de drafter avec lui. Ouais, tu vois.
Clairement, très stylé.
C'est ça. Et en plus, par contre, je pense que Michael Hamilton, c'est quelqu'un qui va pouvoir, qui va clairement lire les signaux que j'essaye de lui envoyer. Je suis assez confiant sur le fait que je me dis, vas-y, cette fois-ci, je vais pas essayer de switch de héros ou quoi. Ça va être compliqué. Enfin, ce serait se tirer une balle dans le pied et clairement, ça n'a pas très bien marché hier. Je vais repartir sur ce que je sais faire. Et là, j'ouvre le premier pack et j'ai une dinguerie. La meilleure carte pour moi qu'on puisse avoir, c'est le casque de Caillot. Donc clairement, ça fait ni une ni deux, je prends le casque de Caillot, je sais à 100% que je vais partir sur Brut. Il n'y a rien ne peut me faire partir de rien ne peut me faire partir de Brut
rien
à ce niveau-là.
Rien ne fera changer d'avis.
Rien ne fera changer d'avis. Je jouerai Caillot, il n'y a aucun doute. Ouais, pour moi, c'est vraiment avec ça ou le casque d'Olympia, c'est vraiment la meilleure carte que tu puisses ouvrir. Donc bah, déjà, j'ai beaucoup de chance et j'ai mon plan de jeu, tu vois. Et là, deuxième pick du premier pack, on passe runner-runner. Je fais bon, bah les gars, là... ok, enfin vraiment, c'est parti.
Quelqu'un a passé runner-runner? Ah,
oui,
ouais.
Oui, bien sûr. Mon voisin de droite m'a passé runner-runner. Et puis après, en gros, bah, je prends toutes les brutes, j'essaie d'envoyer des signaux, machin. Au final, je finis avec un deck monstrueux parce que j'ai 26-6+, 3 Berfangs, dont 2 rouges, 3 Wild Ride rouges aussi, un de mes 4 miss c'est un test of strength, non, un test of agility qui est aussi super fort parce qu'en plus là du coup je suis presque sûr qu'il va que je vais tout le temps gagner avec mes 6 plus et les caillots, tu vois. Du coup j'ai vraiment un deck de fou. En plus j'ai réussi à avoir l'équipement de le torse de brute aussi, les flat trackers qui est le meilleur équipement pour brute, et des gants à la fois pour le match-up contre brute et à la fois contre le match-up pour warrior. Tu sais, il y a le enfin bref, du coup j'ai vraiment tout dans le deck, je pouvais pas perdre en vrai.
Du coup,
Du coup,
attends, est-ce que tu avais le casque de caillot, le torse qui est boosté quand tu as les jetons, les flat
ouais.
trackers et les gants pour faire le might?
Et non, c'est pas le gant pour faire le might, c'est les gants qui pour moi sont encore mieux, qui bloquent deux quand le mec a pop un might.
Ah, d'accord. Ok.
Et du coup, pour le match-up Warrior, j'avais le gant qui bloque un quand t'es en dessous en HP.
Ok.
Du coup, vraiment, c'est un
Comprends ce que
flash
je voulais
deck.
dire. C'est-à-dire que
Ouais.
même si celui qui bloque mieux quand un might a pété est très bon, si tu avais
Ouais.
eu le full stuff intégral, vraiment, tu aurais pu assert dominance. Tu t'assois à la table, tu montes ton équipement, t'en as ça, il fait ah,
C'est ça.
dommage, c'est
Ouais, c'est
perdu.
ça.
Wow, très, très stylé. Du coup, je comprends pourquoi tu as fait 3-0. Je comprends pourquoi tu étais aussi confiant avec ton pool.
Ouais,
Toutes les
bien sûr.
games se sont déroulées comme tu t'y attendais.
Ouais. Et par exemple, la finale du coup du pod de draft, c'était contre Michael Hamilton, du coup. Donc j'étais encore plus refait de pouvoir jouer contre lui, puisque bah, c'est un joueur exceptionnel que j'admire. Et pour la petite histoire, j'ai fini quand même à 10 points de vie contre Michael Hamilton, donc j'étais très content de moi.
Tu l'as battu et avec panache, en effet.
Avec panache, ouais.
Bon, du coup, là, tu te retrouves à 8-2. C'est donc un excellent score.
Ouais.
8-2 après la draft, c'est très bien. Et du
Deux,
coup,
ouais,
là,
c'est excellent, ouais.
on aborde les rondes de CC. Alors, ce qui est marrant, c'est que à l'issue de la draft, quand on voit les standings, nous, en France, parce que tu sais, on les avait en direct et tout, on voit dans les pairings, table 1, Maximilien Klein, Arthur Tréhet, on est en mode,
Ouais.
oh là là, oh là là. On aurait aimé que ce soit streamé, mais du coup, c'était
Ouais.
notre rondes qui était streamé.
Ouais.
Et du coup, comment ça se passe, ces 4 rondes de CC?
Eh ben, la première, du coup, contre Maximilien Klein, c'est une game super serrée. Pendant toute la game, j'ai l'impression d'être derrière. Et à la fin, il brique un tour. Il a que des rouges, il essaie de me finir, parce que je suis à un point de vie, il essaie de me finir avec Spill Blood et un coup de hache. Mais j'ai la défense réaction pour me sauver. Et derrière, je reprends la tempo, il passe à 1, et au final, on arrive au time. Et là, il est à 1 encore, j'ai réussi à lui prendre toute sa main, et on n'a pas le temps de finir la game du coup. Mais du coup, c'était très serré. Et en vrai, je pense que j'étais un peu favorable, mais on ne peut pas savoir comment ça aurait fini. Donc,
Ah non, malheureusement la
mais
game ne
j'étais
s'est
quand même, à ce
pas.
moment-là, j'étais très triste parce que pour moi, je pensais qu'en perdant la première game de CC ou en faisant draw, ben, j'avais plus aucune chance de me qualifier pour le top 8. Du coup, à ce moment-là, j'étais super déçu. Mais bah, du coup, j'étais en mode, bon, moi, le tournoi est fini. Bon, je vais quand même bien sûr essayer de jouer toutes les games un maximum, mais j'ai plus d'espérance de faire top 8, quoi.
Mais du coup, est-ce que ça t'a pas aussi un peu libéré, on va dire, de
Si,
la
bah ouais, clairement.
pression? Parce que du coup, tu te dis, bon, bah maintenant, je joue mes games pour les jouer, parce que bah il y a quand même, enfin, toutes les personnes qui sont pas dans le top 8 ont quand même de l'argent ou des PTI et tout, donc tu pouvais quand même encore jouer ces places-là pour essayer de gratter le plus possible. Et du coup, ça t'a un peu libéré. Tu t'es dit, bon, bah maintenant, je joue au max, je fais au mieux, et puis on verra ce qui se passe, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, franchement, j'avais pas trop de pression. En vrai, même pendant le tournoi, je trouve que j'ai pas mal géré la pression, mais là, j'en avais encore moins. Donc, c'était très cool. Et puis, les games d'après, je tombe contre une Prism, qui est un très bon match-up, même si je le connais pas très bien. Ensuite, je tombe contre un autre Victor, qui, encore une fois, est un très bon match-up. Et là, par contre, la dernière ronde de CC, je tombe contre Brut, contre Kayo. Et le mec gagne le toss. Qu'est-ce qu'il me fait au tour 0? Il me fait Mighty Wand Up, Kasbon révèle 6 rouges. Ah si, pas 6 rouges,
Let's
6-6
go.
plus. Il commence avec 8 mites, je fais oh là là, ça y est, c'est encore fini, je sais pas quoi faire.
Oh non, c'est la sauce. Au secours.
Et au final, pendant la game, à un moment, il se retrouve avec une. La game est très serrée au final. Il se retrouve avec une main de 5 cartes, décide de roll scabs, fait 1, et du coup, bah, je gagne la game. Voilà.
Failli,
Donc
fallait
le
pas.
variance
Oh, le
qui
bouffe.
se retourne de
Le
mon
bouffe,
côté
la rôle.
à la fin et qui m'offre la game. Ouais.
Ok. Et du coup, à l'issue de cette game, est-ce que tu sais directement que tu es en top 8 ou est-ce qu'il y a une espèce de
Non, bah
petit
en fait,
compotement un peu bizarre?
Ça, bah, avant le match, moi j'avais dit à mon adversaire que. Enfin, je lui avais dit, mais de toute façon, on peut pas faire top 8, on est d'accord et tout. Il me dit, si, si, moi je pense que par exemple, que si je fais top 8, je suis qualifié, tu vois, et même peut-être toi, tu peux le faire. Du coup, je fais, ah ok, là, ça me remet un peu de pression. Et à la fin de la game, du coup, je vais voir Sylvain et tout, Sylvain, Dominique, Evan. Et Sylvain, il me dit, ouais, mec, je crois qu'à 99%, t'es in. Et là, je suis en mode, what the fuck, attends, c'est vraiment possible en fait? Genre, je reviens des enfers et tout. Et puis, je regarde sur Discord et tout, il y a IGMetor qui me dit, ouais, selon mes calculs, t'es 7e et tout. Je suis en mode, non, mais c'est incroyable. J'attends le résultat et je vois que je suis 7e et là, c'est incroyable. Enfin, j'y crois pas, mais c'est un truc de fou, quoi.
Et du coup, là, tu fais la fête, mais pas trop quand même. Parce que là, c'est la fin de ta journée. Tu sais que le
Ouais.
lendemain, il va falloir disputer le top 8, que ça va
Ouais.
vraiment pas être une partie de plaisir, parce que tu vois ton arbre à
Ouais.
ce moment-là ou tu sais pas encore à quoi il va ressembler?
Bah, rapidement, ouais, je le vois. Je sais que j'affronte un KO, donc là je suis confiant. Puis un autre KO, donc je suis confiant aussi. Et à la fin, la finale, ça risque d'être contre Dory, Hatchet, KO ou Kano. Et pour le coup, ben, si c'est pas KO, je suis un peu moins confiant. Si c'est Dory, en fait, si c'est Dory, Hatchet, comme j'ai déjà affronté en ronde et que ça finit en draw et que j'avais l'impression d'être derrière, je suis pas confiant par contre. Et du coup, le soir même, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé. On est revenu à l'hôtel. Je suis pas revenu à mon hostel qui était un peu loin et tout. On est revenu à l'hôtel de Sylvain et tout pour que j'ai plus de temps pour train. Et on a pris la liste du gars. On a fait un miroir, enfin pas un miroir. On a fait un match de Droma versus la liste d'Ori Hatchet de Maximilien. Et encore une fois, j'ai eu l'impression que le deck était super fort. Et j'ai pas appris grand-chose à part que Rex Xamber, c'était probablement la meilleure carte du match-up pour ça. Et Burn Zemmol aussi, bien sûr. Elle était
Bah
probablement la
oui,
meilleure carte du match-up.
il n'y avait pas d'abbé.
Ouais. Mais par ça, j'ai pas réussi à apprendre grand-chose et j'étais pas beaucoup plus confiant après la game de testing qu'avant, en vrai. J'étais toujours en mode, bah, si je l'affronte, franchement, je vais tout donner, mais je sais pas trop comment je peux en sortir, quoi.
Mais par contre, les cailloux que tu aurais affrontés avant, là, t'étais serein. Tu savais ce qui allait se passer, tu avais ton
Ouais, c'est
plan, tu
ça.
te demandes, ok, maintenant.
C'est ça.
Est-ce que tu as quand même cherché dans les listes de tes adversaires s'il n'y avait pas des petites épices, un petit truc qui leur a permis
Si.
d'avoir un edge, mais...
Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, la liste de mon premier adversaire de KO, j'ai vu qu'il jouait pas Command & Conquer. Déjà, enfin, c'est assez étonnant. Et en plus, il joue aussi Triple Ping. Du coup, clairement, contre lui, je me suis dit, bah, va falloir que je value le fait d'Arsenal des React extrêmement fort parce qu'il pourra pas me les punir avec ses Command & Conquer. Et même de manière générale, que j'ai moins peur d'Arsenal que d'habitude, parce que si l'Arsenal, même si Arsenal quelque chose qui n'est pas une défense réaction, lui pourra avoir peur pour son palping, et du coup, il aura moins de menaces pour me détruire mon Arsenal encore une fois. Donc, faut pas que j'ai peur d'Arsenal. Et voilà. Le seul truc que j'ai spot dans sa liste, c'était vraiment ça, qu'il fallait que l'Arsenal plus que d'habitude. Ouais.
Ce qui est quand même une information importante, enfin,
Ouais,
ça fait
c'est une
partie des
information
trucs
importante, ouais, bien
qui
sûr.
aident à aborder plus sereinement une partie,
C'est
donc.
ça. Et pour le deuxième adversaire, qui jouait KO, j'ai vu que lui, il jouait Gambler's Glove. Et alors là, du coup, ça a remis en question beaucoup de choses dans mon sideboard, parce que je suis habitué à ce que les KO jouent l'autre bras contre moi, qui a le bleu plus aucun, Apex Bonebreaker, voilà.
C'est Apex Bonebreaker, ouais.
Ouais, c'est ça. Et alors là, du coup, ça m'a dit deux choses. Ça m'a dit que du coup, là, il avait moins de blocs que d'habitude. Donc, potentiellement, les snatchs que je cut dans le match-up, parce que c'est des blocs 2, ils auraient beaucoup plus de value. Et ça me dit aussi que les passing mirages que je pourrais poser, comme il a des Gambler's Glove, il va roll. Et il pourrait me les clean très facilement, sans perdre de points d'action, potentiellement. Du coup, je me dis, attends, est-ce que j'enlève les Mage Master Boot? Je remets les Mage Master Boot. Enfin, j'enlève les Mage Master Boot, les passing mirages, pour remettre les Snapdragon et les snatchs. Et j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup. Je demande conseil à Kevin, Mirakuro. Je demande conseil à Tom. Je demande conseil à Xavier. Et on ne sait pas quoi faire, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, au final, je pense que le mieux, c'est de rester sur le plan de base parce que je suis même pas sûr et certain qu'il va jouer Gambler's Glove contre moi. Ça pourrait être une tech juste pour Prism. Et du coup, je décide de garder Passing Mirage plus Mage Master Boot en me disant aussi que de toute façon, je pourrais value les bots grâce à un Killoria qui aura moins d'armure pour bloquer en fait. Si je peux faire Killoria Passing Mirage avec les bots, Gogen du coup, je pourrais lui présenter l'équivalent d'un Snatch Gogen avec Snapdragon en fait.
Mais d'ailleurs, ce qui est marrant,
Voilà.
c'est que ce dont tu parles, c'est justement, je m'en suis rendu compte quand on a cast la game, parce que quand ton adversaire présente Gambler's Gloves, je suis en mode, bah c'est évident, il a conscience du tricks avec Passing Mirage, il sait qu'à un moment dans la partie, ce sera important de pouvoir clear à la fois un dragon et à la fois un Passing Mirage. Et en même temps, tu le punis tellement bien. Parce que du coup, il fait son casse-bone sur zéro, comme tous les cailloux de la journée, parce que décidément, ils avaient décidé de tous faire ça. Et toi, tu fais, d'accord, Nourishing Emptiness. Et alors, ce Nourishing Emptiness, tour 1, le met tellement dans l'espace. Parce que du coup, il est obligé de mettre son casque, ses bottes et une carte de sa main. Il perd
Ouais, c'est
beaucoup de
ça.
blocs d'équipement. Il n'utilise pas son flashbang au moment adéquat. Et genre, moi, quand je vois ça, je suis en mode, mais c'est trop bien, en fait. Genre, limite à sa
Carrément.
place, j'aurais laissé passer le Nourishing Emptiness. Parce que le bloc du casque valait plus que juste empêcher peut-être une carte maintenant et tout. Et quand je vois ça, je suis en mode, bah, en fait, c'est trop bien parce que je sais pas à quel point ton adversaire avait décidé de jouer un peu au jeu de dupe de ah, j'ai Gambler's Gloves, est-ce que je les mets, est-ce que je les mets pas? Ça se trouve, lui aussi a beaucoup douté justement en se
Ouais, je
disant
sais pas.
ah, c'est pas une draw main normale, il joue des passing mirage, est-ce que j'ai envie? Et ça se trouve, lui aussi, il a passé la soirée à discuter avec ses potes, à se dire waouh, peut-être qu'il faudrait que je change, est-ce que je change, machin et tout. Et c'est vrai que quand il s'installe, on se demande quelle a été la part de, comment dire, à quel point il a été impressionné par les passing mirages dans les games que tu as joué avant, tu vois. Et au final, c'est trop bien, parce que du coup, ça t'aide beaucoup à lui arracher de l'équipement, à prendre de l'avance sur les points de vue, etc. Et en fait, ça t'aide parce que derrière tes Killoria, ils deviennent trop désagréables. Et en fait, ça se voit que tes on-hits deviennent détestables au bout d'un moment, parce qu'il peut juste plus les bloquer, en fait, c'est la sauce.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, pour revenir sur le bloc du casque autour 1, ça, c'est quelque chose de vraiment qui change la game pour moi. Parce que bah, tourner autour du casque pendant toute la game, ça peut te faire perdre beaucoup de value au final. Et s'il le place bien, ça aurait pu être super fort aussi plus tard. Du coup, ouais, quand je peux claimer mon Nourishing tour 1, ça revient. Enfin, c'est un peu moins fort que faire Casbones tour 0, je pense, mais c'est quand même super fort et ça me remet un peu dans la game, quoi.
Ben, en fait, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est si Nourishing avait touché, ça aurait probablement contrebalancé une partie de la value de Casbones, parce que ça t'aurait offert une carte de plus en main avec laquelle tu aurais pu bloquer. Et en fait, si ton Nourishing ne touche pas, ça veut dire que tu arraches de l'équipement et même une carte de la main. Et donc, de toute manière, le Casbones, sur le coup, aura peut-être plus d'impact, mais sur le long terme de la partie, ce qui était ton plan de jeu, du coup, ben, en fait, tu étais gagnant. Parce qu'au
Ah,
final,
peut-être,
il aurait eu moins de blocs d'équipement au bon moment. Et du coup, moi, je me suis dit, ah bah, bon art. En plus de OMG, il y a plus Calling, il y a plus Calling Flashbang là. Enlevez-moi ce casque affreux là.
Il est vraiment horrible à tourner autour.
Du coup, on a un peu skip directement à cette demi-finale. Mais tu joues ton quart du coup contre Peter Ward qui joue Caillou. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué pendant cette partie? Des trucs sur lesquels tu voudrais revenir?
Ouais, carrément. Alors moi, tu sais que j'avais regardé, en fait, j'avais joué une game en stream contre une dromaille. Du coup, j'avais regardé un peu comment il jouait. J'avais l'impression qu'il respectait un peu trop les dragons à mon goût, qu'il avait un peu trop tendance à les clean. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai noté qui clinait beaucoup les dragons, plus que les cailloux que j'en rencontrais d'habitude. Du coup, je me suis dit, c'est pas trop grave de prendre du retard en early sur les points de vie parce que il faudra probablement clean mes Passing Mirage et mes Miragai, quitte à mettre un peu trop de value dedans. Et c'est ce qui va se passer dans la game. Par exemple, il me semble qu'il a mis à un moment un Wild Ride à 7 dans un Miragai. Il m'a mis pas mal. Enfin, qui m'a mis bien. Ah, aussi, il y a aussi un moment quand même où il a discardé un Blood Rush Billow qui m'a un peu donné beaucoup de temps parce que je savais qu'il restait plus beaucoup de menaces dans son deck. Et sinon, il y a aussi la. Et à la fin, je prends un risque un peu inutile, je pense. Parce que du coup, j'étais à un moment, je crois que j'étais à 15 points de vie, il était à 7, et j'avais, je crois, un Burzemol et un Nazgûl sur le terrain. Et je décide de faire le play qui est pitcher mon E-Strike pour faire Passing Mirage, Go Again. Et ensuite, je joue Chromaï, mais ce qui me fait passer à 0H, pour donner Go Again à mes dragons. Mais je pense que j'avais pas besoin de le faire. Il fallait pas se mettre à 0H parce qu'à ce moment-là, j'avais. En fait, comme il était derrière en HP de beaucoup, il allait peut-être juste clean passing ou juste clean as volaille, enfin les dragons. Et potentiellement, je pouvais briquer ma main, quoi, parce que j'avais 0 H encore une fois. Je pensais que c'était j'étais fine en fait, parce que j'avais un quick hunt qui me donne beaucoup plus d'outs que d'habitude de go again. Mais il se trouve que juste après ça, je draw une main 3 dragons ou une défense réaction. Je ne peux rien
Oui.
faire parce qu'il décide d'attaquer mes dragons, ou mon board en tout cas, mes passing et mes dragons. Et là-dessus, je peux clairement perdre la game en fait. Pour moi, c'était un risque de trop que j'ai pris. Donc, ouais, en vrai, assez grosse erreur à ce moment-là. Je me fais punir. Mais au final, il décide de m'attaquer au tour d'après. Et là, je peux revenir, je peux faire ma défense réaction et refaire une hache du coup avec ma Flamescale Furnace. Et je m'en sors, heureusement. Mais ça aurait pu être fatal, quoi.
Mais c'est vrai que j'ai senti en regardant la game, enfin, c'est marrant parce que on voit la différence entre les personnes qui ont joué Dromai, genre beaucoup, et ceux qui l'ont un petit peu moins joué. Parce que moi, vraiment, quand je te vois à 0 H, je suis en mode oh là! Oh là, qu'est-ce qu'il a fait? Au secours! Et du coup, je suis en mode bah, sur le coup, il y avait un semblant de bonne raison, mais c'est vrai que par habitude, j'ai toujours trouvé ça tellement risqué de tomber à 0 H, notamment au moment. Un petit peu sur les fins de partie, ces moments où justement avoir une hache c'est crucial parce que ça peut te débloquer tout un tour et ne pas en avoir c'est ça peut être dévastateur parce que du coup tu fais plus rien de ta main et c'est désastreux. Et c'est vrai quand je te vois à 0 hache, je suis en mode ah, va falloir qu'il bosse quand même parce que pour récupérer une hache, va falloir qu'il crame une carte entière dans la furnace ou alors qu'il trouve une carte comme Nourishing ou des machins comme ça, mais que de toute manière il perde de la value quelque part. Et je suis en mode. Ce serait vraiment dommage que ça joue là-dessus. Bon, finalement, tu arrives à t'en sortir. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand tu fais ton sync, il me semble que tu fais ton e-strike draw, je crois. Et je crois qu'à un moment, tu fais ton. Il me semble que pour faire ta hache, c'est pendant ton tour, après que tu aies joué une carte rouge. Et genre, tu fais e-strike draw avec le quicken, machin et tout. Et tu te retrouves avec une carte en main, et tu es en mode, OK, Furnace. Et tout le monde se disait que tu allais l'arsenal, et je te
Ça,
vois faire Furnace. Bon, ah oui, la hache.
c'était une autre game, ça, pour le coup, mais je crois
Ah
que
ouais?
c'était la game de finale contre Dory,
Je
je crois.
confonds.
Ouais, non, en gros, là, pour faire ma hache, du coup, j'ai sync below et pendant son tour, et après, j'ai pitché une carte dans le vent, quoi, un dragon.
Ok, bon.
Mais du coup, et après, le quicken, je l'ai utilisé pour faire un CNC go again. Du coup, ouais, non, ce que tu parles, c'était pour un effet pour une autre game, pour la finale, du coup. Si je
Bon,
me
du
souviens bien.
coup, on va revenir dessus. Parce que la finale, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, du coup, tu arrives à gagner contre Peter Ward. Après une game déjà très stylée, où on voit que tu le grattes avec des dégâts d'arcane, etc., etc. Et du coup, là, tu arrives en demi. Et du coup,
Yes.
comme d'habitude, KO fait Casbones tour 0.
Bien sûr.
Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué pendant cette game, c'est que j'ai eu la chance de la cast avec Knight. Et donc, bah, on est déjà passé sur le Casbones tour 0, le Nourishing, l'absence de bloc, machin et tout. Mais. Il y a aussi un moment où on est à peu près tous d'accord dans le chat et le commentateur pour dire que ton adversaire fait une erreur en choisissant de jouer un pulping au lieu d'attaquer avec des mandibles claws, alors qu'il est sur une séquence de tours qui est ultra menaçante et qu'il n'a pas besoin de prendre ce risque de d'abord jouer pulping au risque que ça miss et qu'il aurait pu d'abord attaquer avec un claw pour faire des trucs après. Est-ce que tu veux revenir sur ce passage-là justement?
Ouais, bah alors du coup à ce moment-là, je sais pas exactement pourquoi il décide de faire pulping à la place de griffe, si c'est parce que il a quelque chose en tête de particulier. Mais en tout cas, ouais, clairement le résultat, si on est résultat orienté, c'était clairement mauvais parce qu'il a mis 3 dégâts. Maintenant, il y a peut-être quelque chose en tête et j'ai pas, je sais, honnêtement, je sais pas. Mais ouais, ça m'a semblé. Sur le coup, en tout cas, moi, j'ai été super content qu'il misse le coup de griffe et qu'il perde un Blood Rush below et que du coup, je puisse bloquer son tour, etc., quoi.
Et puis ce qui est très marrant, c'est que nous, de l'extérieur, enfin, toi tu ne savais pas parce que tu connaissais pas la main de ton adversaire, mais on voit qu'avant qu'il fasse son pulping, il a un Assault and Battery bleu. Et on le
Ouais.
voit après que Night Crash le maudisse de Paris, parce que Night Crash est en mode, non mais là, il va piocher Blood Rush Below et puis il va le défausser sur son pulping. Du coup, ton adversaire pioche Blood Rush, il défausse Blood Rush, on est en mode, c'est gagné, let's go. Et surtout, à ce moment-là, on ne se rend pas compte à quel point ce Assault and Battery bleu qu'il va mettre dans son arsenal va lui pourrir la vie. Et en fait, on s'en rend compte pendant les tours après, on est en mode, mais en fait, là, s'il n'avait pas cette bleue nulle dans son arsenal, il pouvait y mettre un Blood Rush, il pouvait séquencer un tour autrement. Et en fait, on s'est rendu compte que ce moment, justement, où il a pris le risque, si on est complètement result-oriented, et en même temps, bon, il faut bien de temps en temps l'être un petit peu, tu vois, ça lui a coûté si cher. Ça lui a quasiment coûté la game, en fait. Parce que c'est un Blood Rush de moins, c'est une menace de moins, c'est un arsenal bloqué pendant plusieurs tours. Et quand on le voit plus loin, qu'il le fait, justement, son assault and battery bleu de l'arsenal pour gérer un random dragon, on est en mode, en fait, la tempo que tu as gagné sur le long terme est juste phénoménale, en fait.
Mmh. Ouais. Après, pour le coup, tu vois, le fait qu'il discarde Blood Rush Below, il pouvait rien y faire. Par contre, il aurait pu mettre 3 dégâts d'avant. Et les 3 dégâts qu'il aurait pu mettre en plus, je pense qu'il m'aurait fait perdre la game. Ouais.
Mmh. Et puis on a senti aussi qu'il s'en voulait, parce que du coup on avait sa cam, peut-être que tu le regardais pas autant que nous, parce que nous on avait vraiment que ça à faire, tu vois. Mais on a senti qu'il y avait des moments où vraiment il se prenait la tête, et en fait je pense qu'il a dû s'en vouloir d'avoir pris cette décision-là. Et enfin, en fait, moi j'avoue, j'étais presque un peu triste pour lui, parce qu'on sentait que... pour le coup, la variance n'avait pas été de son côté. Et même s'il aurait pu prendre une autre décision, c'est vrai qu'il a un peu pris un coup de la variance sur le coin de la tête, là, en mode tu défausseras une bonne carte et ton tour est foiré.
Ouais. Mais bon. Clairement.
Du coup, tu arrives à gagner cette game.
Ouais.
Tout le monde, là, dans le chat, est en mode OMG, il va le faire. Il est trop fort, c'est incroyable. Là, du coup, Knight. Qui avait call le fait que ton adversaire défausse Blood Rush, il est en mode non mais du coup je call, il va gagner ce pro tour. Tout le monde est en mode ça va trop bien se passer contre Dory Hatchet et tout. Moi j'avoue que comme je connais le deck Dory Hatchet, je sais ce qu'il peut faire. Je connais genre je connaissais un petit peu ses forces et ses faiblesses et tout. Et comme je connaissais aussi très bien Dromai, je suis en mode ça va être un match-up compliqué parce qu'il va falloir naviguer justement. C'est un match-up qui est un peu bizarre parce que Dory Hatchet à la fois ça peut clear des dragons. Pas mal en vrai, et en même temps, ça peut aussi te présenter beaucoup de dégâts sur toi quand ça veut. Et du coup, j'étais en mode Arthur, c'est un excellent joueur, il s'est probablement préparé. Je suis à peu près sûr que il a dû y réfléchir, tu vois. Mais j'étais quand même en mode Maximilien Klein, c'est pas n'importe qui non plus, tu vois.
Non, on savait
qu'il avait fait une draw avant, et on se disait, cette draw va peut-être avoir un impact sur toi parce que c'est quand même c'est un peu une occasion manquée. On se dit, ça peut te frustrer un peu, tu vois. Et puis, Maximilien Quint, c'est un joueur qu'on avait déjà vu sur d'autres très gros tournois, et on avait déjà pu constater à quel point c'était un joueur qui déjà était très cool. Enfin, genre, en caméra, on sent que c'est un chic type et qu'il
Hyper gentil, ouais.
Mais aussi, on sent que c'est un super joueur. Genre, vraiment, il rigole zéro.
Ouais, clair.
Comment tu te sens avant cette finale?
Honnêtement, je me sens... Enfin, bien sûr, je me sens OK dans le sens au niveau mental, ça va. Genre, je sens que je vais pouvoir jouer la game en étant focus, etc. Mais je me sens pas spécialement confiant. Tu vois, pour moi, je suis en mode il peut tout arriver, je peux peut-être la gagner parce que c'est quand même pas un match-up horrible, mais c'est pas non plus un match-up facile et ça va être compliqué quoi. Va falloir tout donner et il y a peut-être un moment où je peux m'en sortir, mais c'est pas donné du tout quoi. Ouais.
Du coup, il commence avec un tour désastreux à base de Spillblood et puis il fait un shift Tide of Battle, je sais pas quoi. Il finit avec un Agility, c'est la gigasauce.
Ouais.
Et
il finit, je crois qu'il
commence à remonter.
Je crois qu'il finit genre avec 7 dégâts et un Agility ou peut-être 6, c'est un Agility, je sais plus.
Je crois que c'était à peu près un truc comme ça. Il me semble qu'à la fin du premier tour, tu finis à genre 35, genre un truc comme ça. Mais qu'en tout cas, t'es derrière à ce moment-là. Et nous, il y a un truc qu'on a remarqué quand j'ai regardé la game, c'est qu'il y a plein de moments où tu n'as pas hésité à prendre des grosses patates. Et genre, on voyait tes points de vie, des fois, ils descendaient par tranche de 8 ou 9 d'un coup. Et je suis en mode, waouh, ça fait beaucoup quand même. Parce que je savais que Dory, c'est le genre de deck, notamment Dory Hatchet, qui peut présenter des breakpoints nuls. Tu sais, ces petits moments où il y a le point de...
Ah oui, à la fin.
T'as pas envie de bloquer et où en fait c'est à ce moment-là que tu regrettes d'une certaine manière d'avoir pris autant de dégâts plus tôt. Et du coup, j'étais en mode ça me fait peur quand même parce que Maximilien il va vouloir arriver dans ce moment justement où il arrache plein de cartes, où il est dangereux avec la moindre attaque réaction machin et tout. Et on a senti pendant toute la game que tu regardais beaucoup les cimetières, ton cimetière, son cimetière, que tu essayais de prendre des infos et tout.
Ouais, j'ai vu, par exemple, j'ai vu qu'il avait joué beaucoup d'attaques-réactions en début de partie quand même. Assez tôt, je crois qu'il y avait les 3 In the Swing qui étaient passés, 2 Blade Fury qui étaient passés, 2 Shift the Tide of Battle qui étaient passés, il me semble aussi. Donc, j'ai vu quand même beaucoup d'attaques-réactions passer au début. Et c'est vrai que du coup, le fait de passer un peu bas, c'est des décisions que j'ai prises de tanker, mais c'est aussi quand même le fait qu'il y avait les défenses réactions, les attaques réactions autour desquelles je pouvais pas forcément tout le temps tourner. Et en fait, pourquoi j'ai pris autant de dégâts aussi, c'est parce que j'ai l'impression que dans ce match-up, les dragons, ils ont plus de valeur quand tu les joues que quand tu bloques avec, parce que elle a pas de moyens gratuits de les clean et il a assez peu de poppers. Donc au final, par exemple, les Ashwing, tu vois, quand il est clean, ils se font deux de value. Plus 1 au moment où ils ont attaqué, etc. Donc ils sont vite overrate par rapport à juste bloquer avec des cartes. Donc c'est pour ça que je tank un peu en early. Mais peut-être qu'en effet, je tank trop. Je sais pas. En fait, j'ai pas assez de practice sur le match-up et je sais pas comment il faut l'aborder. Donc c'est possible que j'aurais dû plus bloquer en vrai.
Bah après, finalement, tu l'as gagné cette game, donc
Ouais, mais bon,
ça
c'était
veut dire
très
que tu as
tendu le
le
match.
fait. Moi, il y a un truc qui m'a marqué pendant cette game, c'est il y a eu des moments un peu marrants où vous discutiez des interactions. Genre, par exemple, un moment, il a plein de poppers dans sa main et il t'attaque avec Amnesia. Et t'es en mode, attends, stop, on va lire la carte parce que je veux savoir à quel point ça me met dans la sauce.
Ouais.
Alors, moi, je savais qu'Amnesia, ça faisait rien du tout contre Dromaï,
Ouais.
mais tu sais, on a senti ce petit moment quand même. Où fallait lire la carte pour être sûr, quoi. Genre,
Ouais,
c'était
c'est ça.
important.
Bah moi, on m'a jamais joué Amnesia, je crois, quand je jouais Dromaï. Donc, c'est la première fois que je vois cette interaction. Je me dis, attends, mes tokens perdent leur nom, mais je dois transformer des H pour mes dragons. Est-ce que ça marche, tu vois? Et non, du coup, je connais un judge et il me dit que en fait, c'est la H a un type. En plus de s'appeler H, elle a aussi un type H. Et du coup, c'est ça qui compte pour le fait d'invoquer le dragon. Et du
Et
coup,
c'est
là,
pour
ça
ça
n'a
d'ailleurs
aucun
que.
impact sur le mec.
C'est pour ça d'ailleurs que les dusts fonctionnent. Parce qu'en fait, les dusts, elles s'appellent pas H. Et pourtant, c'est des
Ouais,
H.
c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça. C'est vrai.
C'est pas très important. Mais on a aussi noté que lui a lu tes cartes. Parce que par exemple, alors nous, on le savait parce
Ah oui, il a
que
lu tes mails, lui.
on avait sa main. Et surtout, on a noté qu'à un moment, il y a un Temaille en jeu. Il choisit de le laisser en vie. Et il arsenale un Take It on the Chin. Et là, nous, tu sais, on est. Enfin, je regarde le stream et je suis en mode. Mais il a pas lu Temaille. Enfin, genre. Si, il l'a lu, il doit le connaître, mais pas ouf de mettre Take It on the Chin en... En fait,
Ouais.
surtout ce qui était très étonnant, c'est qu'il choisisse de jouer tout son tour sans gérer Temaille, et qu'ensuite il mette Take It on the Chin en arsenal. Je
Ouais,
suis en mode...
c'est vrai.
C'est un peu étrange.
Et
Et en
surtout
fait...
que. En plus, après, il y a un truc qui le punit encore un peu plus. C'est que je crois que je pioche un tome juste après. Ou je sais pas. En tout cas, pendant que mon Temaille est encore sur le terrain. Et que du coup, il peut pas jouer son arsenal. Take It on the Chin, il est bloqué. Et en plus, il peut pas non plus craquer sa Balance of Justice. Donc, pour le coup, il a eu une punition, on va dire, assez mal.
Ouais, et d'ailleurs, la deuxième fois que tu joues un tome, il est en mode non, mais attends, je vais activer la balance. Enfin,
Ouais.
non, c'est un petit peu plus loin. Tu joues un tome et tu joues un Temaille. Et là, il a relu Temaille et il a fait je vais craquer ma balance là parce que sinon je vais me faire
Ouais.
avoir.
Ouais.
Et du coup, ça nous a fait rire quand on a regardé ça de loin.
Voilà, bien sûr. Moi,
Du coup.
j'espérais bien sûr qu'il oublie de faire sa
Ouais,
balance et que
mais.
Temaille résolve, mais bon, il est pas. C'est quand même
Et
un excellent
à un
joueur.
moment,
Il l'a pas laissé passer,
c'est
quoi.
ça. Finaliste de Pro Tour, je pense que ce genre de choses, surtout quand tu t'es déjà fait avoir un petit peu plus tôt dans la
Ouais,
partie,
surtout que du coup, il y avait déjà son Take It on the Chin qui avait bien resté longtemps et qu'il n'avait pas pu faire balance la première fois. Donc, ouais, c'est normal qu'il y pense. Mais ouais.
Et un truc qu'on a remarqué pendant le cours de la game, notamment avec les Take It on the Chin, c'est que moi j'ai trouvé que Maximilien avait. Il avait eu la réussite au début de la partie, mais que justement au milieu de la partie, à ce moment un peu crucial où toi tu as commencé à gratter des points de vie, à développer du board, machin et tout, c'est aussi ce moment-là où il avait les mauvaises cartes au mauvais moment. Il
Ah
avait des défenses réactions et hold the line avec un Take It on the Chin quand tu as un Temaille en jeu, ce qui est
oui.
désastreux évidemment. Un
Ouais.
petit peu plus loin, il repioche un Take It on the Chin. Genre, tous ces Take It on the Chin sont arrivés en même temps que tes Temaille.
Ouais.
L'ont un peu gêné parce qu'il était obligé de sous-jouer, il jouait un peu avec IP1, enfin, genre, c'était un peu bizarre. Et on
Ouais.
a senti que c'est un moment dont tu as profité justement pour remettre de la pression, remettre du board, récupérer de la vapeur, récupérer des points de vie.
Clairement, Temaï MVP m'a fait Enfin, les thémas ils m'ont permis de beaucoup remonter dans la partie. Après, du coup, bah, si on est result oriented, on peut dire que c'est quand même. En soi, il avait le choix de gérer le thémaï, tu vois. Donc, le fait que il pioche ses take insert junction à ce moment-là, c'est un peu malchanceux. Mais c'est aussi lui qui s'est mis dans cette position, on va dire.
Bien
Il y a
sûr.
aussi le fait, tu vois, par exemple, quand je joue thémaï la première fois, en soi, il me semble qu'il a une fenêtre pour jouer take it on the chin à ce moment-là, avant que thémaï résolve.
Oui, bien
Et
sûr.
du coup, je pense qu'il y a un peu de variance qui n'est pas de son côté, mais là, je pense aussi quand même que c'est pas mal les décisions qu'il a prises qui l'ont mis dans cette situation.
J'ai un peu l'impression que de ton côté comme du sien, il y avait une espèce de une légère méconnaissance du match-up. Mais pas une
Ah oui, c'est sûr, ouais.
méconnaissance dans le sens, dans la profondeur du match-up, mais tu sais, dans toutes ces petites interactions un peu précises, un peu bizarres, les trucs dont Dromae a le secret de toute manière, de mettre des situations en jeu où tu es en mode, qu'est-ce qu'il faut faire en fait?
Ouais, c'est ça.
Et on a
Bah,
senti
moi, je
qu'il y avait
connaissais
un
pas
peu
bien
de
le
ça
match-up
des
et
deux côtés.
je pense que lui aussi, il avait. Je pense que lui aussi, il y avait des choses qu'il connaissait pas, en tout cas, qu'il n'était pas assez train. Ouais. Il a
Du
pas mal
coup,
joué.
la partie avance, les points de vie descendent, on arrive un peu aux moments cruciaux, à la fin de la partie où les points de vie sont très très bas, tu as choisi de prendre des dégâts, tu es à 1, ton adversaire il est à 2, et là on arrive à une main où je sais que on en a, comme tu as beaucoup réfléchi, j'ai aussi pris le temps d'y réfléchir, et c'est une main où tu as Burn Them All, Chromaï,
Ouais.
Killoria et un Sync Billow. Et
Ouais.
alors là, c'est typiquement le genre de main de Dromae où il y a plein de façons de la jouer
Ouais.
et difficile de savoir. Et du coup, à quoi tu penses à ce moment-là?
Bah, à ce moment-là, je me dis, en fait, déjà, la première chose que je me dis, c'est est-ce que je dois jouer le Killoria ou pas? Genre, Chroma, je suis à peu près certain qu'il faut jouer dans cette situation. Mais après, du coup, la question, c'est est-ce que je joue Chroma ou est-ce que je joue Burn Them All? Et au final, je vois qu'il reste bah, ses dynamos, qu'il reste la tunique. Killoria, en fait, ça représente qu'une seule carte pour lui, et moi, ça m'en coûte deux de la jouer. En plus, il ne va pas avoir trop de mal à la clean. Et sachant que je me mets à 0H en jouant le Chromaï, s'il me clean mes dragons et que j'ai pas de plan de jeu pour le finir très très vite, potentiellement avec de l'arcane, je vais perdre, en fait, c'est sûr. En plus, j'ai plus de starter dans mon deck. Les trois Istrax sont passés, les trois Ravenous sont passés. J'ai plus Slam Dragon, donc en fait, je peux plus faire l'attaque Go Again, sauf Billowing Mirage. Mais celle-ci a créé un dragon, donc elle value Burn Them All autant que, enfin, elle value Burn Them All aussi. Donc en gros, la conclusion de ça, c'est ok, les dégâts physiques, c'est mort. Je pourrais pas le tuer. Je pourrais pas le tuer comme ça. Il faut que je joue Burn Them All. Si je joue Burn Them All, bon, je comptais jouer Chromaï aussi. Le Killoria au final il me sert à rien. Il sert vraiment à rien. Il faut que je bloque avec et que je garde mon Sync Billow pour avoir encore plus de blocs possibles. En gros, sinon il y a une autre possibilité qui était une autre manière de jouer la main, je pense, qui était bonne. C'était Sync Billow le Killoria pour essayer de choper une meilleure carte. Mais c'est quand même très risqué. En gros, il y a Burn Them All et Azvola qui me font gagner la partie si je fais ça. Mais si je ne chope pas ces cartes-là, c'est beaucoup moins bien que juste de bloquer avec mon Killoria et de garder une défense réaction d'Arsenal pour pouvoir bloquer du coup c'est 16 potentiellement au tour prochain et ne pas mourir sur le tour où il veut me finir justement parce qu'il y a un Burn Them All qui risque de le tuer à ce moment-là, tu vois.
Ben c'est, j'ai aussi pensé à ça parce que je te vois avec le Sync, je suis en mode bon bah Killoria c'est la carte que j'aurais dégagée par réflexe parce que c'est celle qui me plaisait le moins, il y avait les dynamos machin et tout, et en fait tu sais, j'y réfléchis et puis je te voyais regarder ton cimetière, regarder le sien machin et tout, et je suis en mode mais en fait le problème c'est que ces deux Asvolai, enfin il a pitché deux de ces trois Asvolai il n'y a pas très longtemps, enfin on savait qu'ils étaient pitchés. Donc en fait, on savait qu'il y avait des Asvolai qui étaient loin et que tu n'allais probablement pas les revoir. Et donc, il restait un Asvolai et un, deux Burn Them All. Je suis en mode, ah, c'est quand même.
Ouais,
Ah,
j'ai
c'est
pitché un
quand
Burn
même
Them All
risqué.
aussi assez récemment, donc il y avait un qui était pas là. Il en restait un dans mon deck qui arrivait bientôt. Ouais.
Et du coup.
Et en gros. Ouais,
Vas-y.
en gros. Avec le play que je fais, moi je sais que s'il décide de tuer mon Chromaï, j'ai quelques outs qui me permettent de rester dans la partie. C'est deux Billowing Mirage, et il me semble qu'il restait un Rex Viamber, je suis pas sûr à 100%. Mais sinon, les autres cartes dans mon deck, elles font rien à ce moment-là, parce que bah, j'ai plus de hache, j'ai plus de Furnace, je peux plus rien faire. Donc, en gros, le but, c'est de voir une main entière dans laquelle je risque d'avoir... j'ai 4 chances de voir soit un Rek, soit un Billowing, plutôt que de, tu vois, de sync le Killoria, et de ne voir qu'une seule carte qui a besoin d'être un Zwolak ou un Burn the Mall. Donc là,
Ouais, bien
avec ce
sûr.
play, en fait, je me donne 4 cartes, si tu veux, dans l'idée, sauf s'il réussit à me tuer malgré ma défense réaction d'Arsenal. Donc en vrai, c'est un truc un peu difficile à évaluer, mais je pense quand même que c'était ce qui me donnait le plus de chances de gagner. Avant.
Bah ça s'est senti, et ce qui est amusant, c'est que derrière Maximilien, il y a Chromaï qui arrive en jeu, il y a Burn des Maul, on sent qu'il y a quand même une petite goutte de sueur qui arrive parce qu'il est en mode oh là, donc en fait dans un tour je suis mort, donc faut que je tue maintenant.
Ouais.
Et là, nous sur le stream, on est dévastés. Parce que dans sa main, on voit Overpower et Spill Blood. Et là, on est en mode oh non, c'est perdu. Et après, on se dit, mais en fait, ça va. Parce qu'en fait, il y a toujours une défense réaction en Arsenal, qui est encore là. Il lui reste des cartes en main. Et surtout, il suffit d'un dragon. Il suffit juste que Chromaï survive et c'est gagné. Et là, je pense que Maximilien, on sent qu'il a beaucoup réfléchi. Et qu'il s'est dit, OK, clear les dragons, pas ouf quand on est sur un tour Spillblood. Mieux vaut tout mettre dans la tête. Et du coup, c'est ce qu'il choisit de faire. Il envoie tout dans ta tête. Et nous, on a peur. Parce qu'en fait, on voit ta main et on est tous en mode, bah, en fait, il y a une carte qui le sauve, une seule, et c'est Sigil. Et
C'est
là,
ça.
je me souviens quand je regarde, parce que moi j'étais dans mon lit comme ça, là, avec uniquement la lumière de mon téléphone qui m'éclaire à 1h du matin, j'étais derrière toi, j'étais en mode
Ouais,
mais oui, quand là. Mais surtout, je me souviens que dans ta liste, et peut-être tu vas me contredire, mais tu ne joues pas 3 Sigils, t'en joues que 2.
ah si, j'en joue trois, si si.
T'en joues 3? Bon, c'est moi
Oui, si j'en joue.
qui ai du mal à lire. Mais du coup, je savais
J'en
qu'il y en
joue
avait un qui
trois
était
et...
passé. Et je suis en mode bon, il y a une carte, une seule qui marche, c'est Sigil. Puis là. Voilà, bah
La
là, tu
méta.
as écrit l'histoire, quoi.
Ouais.
Et
Après.
en fait, ça se voit que quand tu fais ça, ton adversaire, il est en mode, bon, bah, well played, hein.
Ouais. Mais en fait, tu vois, la première attaque, c'est normal qu'il me l'envoie dans la tête. La
Oui, bien sûr.
deuxième, il peut décider encore de tuer Chromaï. Et s'il tue Chromaï, avec la main que j'ai complètement perdu, j'ai aucun moyen de revenir. Du
Mais.
coup, quand moi je pioche le sigil, je suis en mode. Bon, bah j'espère quand même. Enfin, il faut garder absolument la poker face parce que peut essayer
Oui, c'est vrai, parce que
de tuer
tu pioches
Chromaï et je vais
le
perdre.
sigil avant qu'il prenne la décision d'attaquer ton dragon.
C'est ça, c'est
Donc il
ça.
aurait pu, en voyant ta réaction, attaquer le
Ouais,
dragon, le mettre dans la giga
surtout que
sauce.
j'ai eu une réaction de soulagement, je pense. Il a dû pas l'avoir, je pense, mais ouais, j'ai pas réussi à cacher mes émotions en fait.
En même temps, c'est vrai que c'est un peu le sigil de la victoire. Donc,
Ouais, c'est ça, mais moi dans ma tête, j'étais.
et
Quand je vois ce qu'il
tu
donne, je suis en
vois,
mode.
ce qui est intéressant, c'est que si on exclut la réaction que tu as eue à ce moment-là, il est probable que la décision qu'il prend de t'attaquer toi, en fait, elle ait du sens aussi. Parce que
Ah, mais
qu'est-ce
oui, je
qui,
pense que c'est la meilleure.
qu'est-ce qui. Parce que, en fait, il y avait rien qui te sauvait à part Sigil dans ton deck. Puisque
Ouais.
une défense-réaction, tu survivais pas parce que son attaque, elle était à 5. Et
Ouais.
donc, en fait, le seul truc qui te sauvait, c'était une carte de ta main et Sigil. Et en fait, je pense qu'il a dû y réfléchir. Je pense qu'il a dû se dire, OK,
Ah
en fait, il a dû se
oui.
dire, il a fait Sync. En fait, s'il a Sigil, bah, bien joué, tu vois. Mais. Les chances étaient carrément de son côté.
Après, oui, après tu dis ça. Enfin, en fait, j'aurais pu avoir su dans ma main de départ aussi, tu vois.
Donc c'est vrai.
J'ai pioché 4 cartes, on était très proche de la fatigue, il reste 2 sigils. On est très proche du speed sac, pardon. Il reste 2 sigils. Et en fait, le truc, c'est qu'il reste 2 sigils dans mon deck et il me semble que du coup, il reste 2 Billowing Mirage. Et un Rex Zombers. Donc il a le choix entre tourner autour de ces trois cartes-là ou des deux sigils. Et du coup, je pense que ça fait sens, enfin que c'est la meilleure décision de, tu vois, de tourner autour de ces cartes-là plutôt que de sigils. Mais ouais, c'était quand même. C'était hyper tendu, c'était un close call. Et heureusement pour moi, il a choisi de m'attaquer, quoi.
Et du coup, nous, on était. Tu t'imagines bien que quand on te voit gagner, quand on te voit qui drop le sigil, quand on voit Maximilien qui est en mode. dommage. Et puis qu'au tour d'après, tu l'attaques avec Chromaille, parce que t'as pas besoin de faire autre chose, et tu fais juste un Darkhan, puis qu'il regarde sa main. Et puis comme on est en finale d'un pro tour, il tend pas la main tout de suite, il la regarde quand même, et puis en fait, c'est gagné, quoi. Donc là, qu'est-ce qui se passe, là, du coup, dans ta tête? Parce que nous, on te voit sur le stream, on voit que t'as un soulagement, on sent que t'es dans ce moment où, genre, t'y crois pas.
Et, ah ouais, clairement, et genre, je crois pas,
qu'est-ce qui se passe?
En fait, moi, à partir du moment où j'ai vu qu'il avait Speedblood plus un moyen de lui donner Gauguin, bon, je savais qu'il me restait Sigil et que je pouvais le piocher, mais j'y croyais pas, tu vois. Du coup, après, par contre, quand je pioche le Sigil, décide d'attaquer Chromaille, je sais que j'ai gagné, parce que même s'il ne tente pas la main tout de suite, parce que son seul moyen de prévenir de l'arcane, c'était Kit on the Chin, il en avait déjà passé deux et pitché un. Donc je suis sûr et certain qu'il l'a pas en main. Bon, j'attends quand même un peu de voir s'il drop sa main ou pas, tu vois. Mais au fond, moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien qui peut le sauver. Mais par contre, ouais, j'y crois pas à la. Quand ça se finit, enfin, j'y crois pas dans le sens où. Il fallait tellement que les étoiles s'alignent à la fin pour que je la gagne que. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas vrai, quoi.
Et du coup, maintenant, est-ce que tu y crois? Maintenant qu'on est en train de t'interviewer à ce sujet-là et puis qu'on revient sur cette game, est-ce que tu y crois maintenant que t'as gagné?
Ouais, bah maintenant, c'est bon, je commence à y croire. Écoute, mais ouais, c'est incroyable. C'est quand même toujours difficile de réaliser, quoi.
Mmh, bien sûr. Du coup, comme t'es trop fort, tu repars avec 50 000 dollars.
La carte, j'ai beaucoup de chance aussi, ouais.
Oui, alors, oui. Mais finalement, la chance, c'est une forme de talent, tu vois. C'est-à-dire que, bon, des fois, on l'a,
ouais,
on l'a pas, bon, ça arrive. Mais c'est vrai que la variance a été de ton côté. Et en même temps, tu as
pas
aussi...
Pas tout le temps non plus, hein. Oui.
Ouais, mais t'as quand même pris un sacré paquet de bonnes décisions. C'est-à-dire que
ouais.
Beaucoup seraient tombés dans des pièges. Moi, le premier, tu vois, il y a des moments, je te voyais faire des trucs, et j'étais en mode, j'aurais pas fait ça, quand même. Et évidemment, on peut être result-oriented, tu vois. Mais il y a des moments où t'as pris des décisions qui paraissaient pas évidentes, qui pour toi était évidente parce que t'avais les statistiques en tête, parce que tu connaissais ta liste, machin et tout, mais c'est vrai que du regard extérieur, on était en mode waouh, il lit dans le futur, en fait il savait que ça allait se passer comme ça et tout. Et c'est marrant parce que il y a un peu ce mood pendant ce tournoi, enfin quand on suit notamment le top 8, où on a un peu l'impression que des fois tu prends des décisions parce que tu sais ce qui va se passer, tu vois.
Après, tu vois, pour le coup, il y a quand même un peu de ça, parce que je pense que vous ne voulez pas sur le stream, mais quand je fais des Fate Forcing, par exemple, je vois la carte du dessus, et ça, presque à chaque game, j'ai l'impression que ça a changé beaucoup de mes décisions, le fait que j'ai des Fate Forcing et que je puisse voir la carte du dessus. Il y a beaucoup de tours où je me suis dit vraiment, ok, en fait, je change la décision que j'allais faire pendant ce tour-là parce que je vois la carte du dessus et que je sais comment va se dérouler mon prochain tour. Du coup, peut-être que ça peut donner cette impression aussi, juste à cause du opt, en fait, je sais pas. Mais sinon...
Ce qui, à mes yeux, est ultra important et donne de la valeur ajoutée justement au Fate Forcing, parce qu'il te donne ces petits edges d'information qui font la différence, en fait, sur une game.
Mm-hmm.
Du coup, 50 000 balles, t'as la carte du champion. Tu as la dromaille. Est-ce qu'elle est belle, cette dromaille?
Elle est très belle. Alors, je ne peux pas vous la montrer là, mais parce que je ne l'ai plus avec moi, mais ouais, elle est très belle.
Et t'as obtenu une gold foil aussi, en gagnant.
Ouais, j'ai ouvert le bouclier de Victor, donc qui est un gold token, et qui pour le coup est vraiment gold, quoi.
Ce qui est marrant, c'est ça. Ouais. Pour le lore, c'est stylé, en vrai. Le bouclier
est marrant, un
gold, qui est gold foil, en vrai, c'est cool.
Ouais.
Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce que t'as gagné un pro tour, ouais. T'es le meilleur joueur de Flesh and Blood jusqu'à la prochaine échéance. Non, mais si, il faut le dire un moment. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment est-ce que tu abordes le jeu maintenant que tu as fait ça, tu vois?
Écoute, c'est une bonne question. Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir. Je pense que clairement, c'est sûr que je vais continuer à jouer et à essayer de performer. J'ai vraiment envie de continuer de traîner encore plus et tout. Ça motive beaucoup plus, en fait, de faire une perf comme ça. Maintenant, je sais pas exactement ce que je vais faire. Je sais que je vais essayer de participer à un maximum de tournois, quoi. C'est tout.
Mm-hmm. Très bien. En tout cas, moi, je peux te le dire en mon nom et probablement le nom de pas mal d'autres joueurs, te voir parfait comme ça, te voir réussir à gagner un pro tour, ça m'a redonné envie de m'investir plus dans le jeu. Et en fait, je pense que je te remercie beaucoup pour ça, tu vois, de t'avoir vu gagner, mais aussi de t'avoir connu un petit peu avant. C'est-à-dire que je joue au jeu depuis plus longtemps que toi. Je t'ai vu débarquer à la boutique, je t'ai vu laver tout le monde avec Dromai. Des fois, tu m'as demandé des conseils sur Dromai, et puis après, tu me pétais le cul avec. Donc, mais tu vois, ça me donne envie de m'investir plus dans le jeu, de me préparer plus, probablement comme tu as fait, et d'essayer de faire mieux, en fait, maintenant.
Ouais, c'était que les Français super plaisir d'entendre ça. Ouais, ça fait vraiment super plaisir d'entendre ça. Et bah, je suis content, en tout cas, ouais, si ça vous motive plus. Notamment la commune française à s'investir et à essayer de faire de la compétition, quoi. C'est vraiment incroyable.
Moi, je te remercie de m'avoir donné envie de jouer, mais est-ce que toi, il y a des gens que tu aimerais remercier? Des gens qui t'ont
ouais, peut-être
aidé pour atteindre ce résultat?
Bah déjà, comme. Alors, je sais pas si on l'a déjà dit dans l'interview, mais moi, j'avais pas mes cartes avec moi pendant ce tournoi. Et du coup, j'aurais pas pu jouer si Sylvain m'avait pas ramené tout un deck. Il y a aussi Evan d'ailleurs quand même qui m'a ramené 3-4 cartes que j'avais changées entre temps dans ma liste. Merci beaucoup à eux. Merci aussi à Dominique et Adrien qui étaient avec moi à Los Angeles et qui m'ont soutenu pendant tout le tournoi. Et puis le groupe d'amis avec qui je traîne pas mal. Tom, Clément, Flaxo, Enki. Xavier, après il y a aussi du coup Kevin Mirakuro qui m'a beaucoup aidé à. Je lui ai posé beaucoup de questions pour des match-ups. Le champion de France du coup. Simon, qui joue Dromai aussi, je sais pas, Simon Diaz, je lui ai posé aussi des questions, je lui ai demandé son avis sur pas mal de match-ups pour le sideboard. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens avec qui je peux m'entraîner, qui m'ont aidé. Et il y a aussi toute la commune française en vrai qui était derrière moi. Et ça m'a donné beaucoup de force, ça m'a vraiment donné envie de me donner à mon max. Et c'était incroyable. Je pense que je peux aussi remercier Nightcrash pour le coup d'avoir brûlé toutes ces cartes Dromai pour invoquer ma chance. Il a clairement servi.
Il a fait de sombres rituels là, j'étais là.
Ouais.
J'étais presque là quand il a cramé des cartes.
Ouais.
C'est là l'ambiance.
Donc ouais, non, merci à tout le monde. Après, en vrai, c'était super cool et je me suis senti. Je me suis senti soutenu, donc c'était super bien.
En tout cas, sache que nous on est tous très fiers d'avoir un Français en plus. Vas-y, je suis pas encore retourné à Uchronie, mais sur le coverage, quand tu apparaissais avec ton résultat dans le tournoi, tes résultats précédents, machin et tout, il y avait marqué tout en bas Local Game Store, Uchronie Games.
Ouais, bien sûr, j'ai oublié de remercier, mais Uchronie, c'est vraiment la boutique à laquelle je joue le plus. C'est aussi là où j'ai appris à jouer au jeu. Et tous les gars de Uchronies, maintenant, c'est des potes pour moi. Donc, merci à Uchronies, à Thomas et à tous les gens qui jouent. D'être là, de m'avoir soutenu. Et j'ai hâte de me ramener en armorie pour fêter ça avec eux.
Bah, nous aussi, on a tous très hâte que tu reviennes pour pouvoir fêter ça avec toi et tous à gueuler comme des singes parce que tu as gagné et que tu es trop fort. Bon, bah, je crois que si tu n'as pas d'autres choses à ajouter, je crois qu'on arrive au bout de cette interview.
Ouais, non, j'ai pas, y a rien qui me vient à l'idée là, rien qui me vient à la tête, mais ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas pour l'interview, c'était très cool.
C'est moi qui te remercie, évidemment. Je suis très content d'avoir passé avec toi, c'est très cool. Surtout que ça me fait rire parce que ça a un petit côté diptyque. Je t'avais déjà interviewé quand tu avais fait un super résultat avec Dromai, et du coup, là, on revient dessus.
Ouais.
Et on n'a pas parlé de la liste parce que maintenant, Dromai, il est à 996 points. Mais,
ouais, en vrai, elle est disponible avec tous les match-ups si jamais quelqu'un la veut. Mais ouais.
Ah bah, en plus, comme ça, quelqu'un pourra gagner un ProQuest avec. Hop, ça, c'était les derniers points et c'est réglé. Mais du coup. Merci beaucoup d'être passé nous voir. J'espère que tu vas pouvoir finir ton séjour à Los Angeles au max, en kiffant. Et puis, j'ai hâte de t'affronter de nouveau en France et de pouvoir te dire, en vrai, bien joué à toi, tu as gagné un Pro Tour, tu es trop fort.
Carrément, moi aussi.
Et sur ce, à toutes les personnes qui nous écoutent, je dis à la semaine prochaine et merci de nous avoir écoutés.
À plus.